Bon, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, c'est un film. Alors, quel est le statut de ce film dans l'œuvre de Bernard Ricoltès? Ça serait une longue discussion. On va donc plutôt essayer de voir, de le contextualiser plutôt, je pense. Alors, je remercie déjà à François Coltès qui est un témoin privilégié de toute l'histoire de son frère et donc de ce film. Dialoguer aussi avec moi pour donner des précisions, parce que je pense que vraiment c'est une qui aurait du mal à passer comme ça sans qu'on puisse le mettre dans un certain ordre, si vous voulez. C'est un objet un petit peu, comment dirais, non identifié, auquel il faut donner quand même certains repères. Alors il y a l'un des repères, là François tu peux peut-être nous en dire plus, c'est-à-dire que donc La Nuit Perdue, Un Rêve Égaré, 1973, c'est l'adaptation, et dans quelle mesure c'est l'adaptation en fait d'une pièce qui s'appelle Récit mort. Donc ça n'est pas une adaptation exacte, c'est une retransformation dans le langage cinématographique. Et donc est-ce que tu peux nous en dire plus de ce passage justement du théâtre en fait au cinéma, c'est-à-dire que c'était pas prévu peut-être au départ, ou alors si c'était déjà prévu, c'était prévu au départ?
Justement, c'était prévu dès le départ de faire un film. Donc il a écrit cette pièce qui s'appelle Récit mort, et en même temps il songeait tout de suite au film, puisque dès qu'il a fini de le jouer, dès que ça a été joué à Strasbourg, donc je crois au mois de mai et juin 73, immédiatement il est parti pour tourner le film. Et pendant qu'on jouait encore la pièce, il partait en repérage en Alsace, en Lorraine et près de Dunkerque.
D'accord. Donc, on trouvera de très nombreux passages enfin sur le film et aussi sur la pièce pour vous en donner quelques exemples. Il raconte notamment ses repérages qui sont en fait en Alsace. Il y a une partie qui est avec un repérage des châteaux.
Voilà,
notamment.
C'est les châteaux du Moyen Âge d'Alsace. Il a tourné dans deux châteaux, l'un principalement, vous verrez, j'ai oublié les noms des châteaux. Et puis sinon, la grosse... Alors ça, c'est tous les intérieurs. Ensuite, il y a d'autres intérieurs dans Strasbourg. Ouais. Il y a une rue de Strasbourg. Et puis, il y a une grande partie extérieure à la campagne qui se trouve près d'Avrechvillers, dans les Vosges-Lorraine. Ouais. Et puis, à la fin du film, c'est Dunkerque.
Voilà, c'est ça. Donc il y a deux espaces. Alors... Voilà ce que lui en dit notamment. Donc c'est une lettre, ma chère Nicole. Enfin, une petite période d'arrêt à La Valette, seule depuis tout à l'heure. J'écoute La Passion selon Saint Matthieu. Ça va avoir une très grande importance. Je reste ici une semaine pour écrire le scénario de mon film. Donc on est le 8 juin 1973. Et La Passion, c'est un sacré morceau. J'ai déjà choisi les extraits pour mon film, dans Saint Matthieu, dans Saint Jean. Le début surtout, je ne connais rien de mieux en musique, et puis des bouts de la passacaille en ut, et des suites pour violoncelle, j'espère pouvoir me servir de tout cela. On a fait une tournée des châteaux d'Alsace, comme tu viens de le dire, Moyen-Âge, épuisante, une vingtaine, il y en a bien une centaine au total, pour trouver le lieu de tournage de Récit mort, qui changera de titre. Donc c'est effectivement La Nuit Perdue, Un Rêve Égaré. Tournée l'été et automne 1973. Quand tu définirais la structure narrative de Récit mort, qu'est-ce que ça raconte, on peut dire? Parce qu'on a l'impression que c'est un rêve, mais en même temps, il y a des retours à un certain réel. Est-ce que ça ne serait comme un grand songe uniquement, ou comment tu vois est-ce que la trame narrative, on peut dire que si on parle en termes, disons, de cinéma pour les cinéphiles, c'est plutôt du cinéma de poésie que du cinéma de prose. On peut dire ça comme ça, tel que Pasolini l'avait défini. C'est-à-dire que ça ne s'enchaîne pas. Les temps sont diffractés, les espaces sont aussi diffractés. Il n'y a pas un début, un milieu, une fin et quelque chose de linéaire.
Non, d'ailleurs, c'est sûr, ça raconte pas une histoire. Ça, c'est certain. Ça, voilà. D'ailleurs, récemment, des gens, des spécialistes du cinéma m'ont dit que c'était pas un film. Et c'est assez curieux parce que c'est quand même de la pellicule. Ouais. Donc ça a été tourné avec une caméra, avec des comédiens, avec
un... En 16 mm.
Voilà, en 16 mm. Mais c'est peut-être pas un film, mais à ce moment-là, sans vouloir comparer les deux choses, mais le film de Pasolini, là, que j'ai vu récemment, L'Orestie africaine ne serait pas un film non plus.
Bien sûr.
Donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas réellement une histoire. C'est l'histoire d'un rêve quand même, hein, puisqu'on voit au début et à la fin le jeune homme qui est dans son lit, qui se lève, qu'on revoit ensuite à l'intérieur d'une histoire. Et il y a des choses très mélangées. C'est vrai qu'on peut pas très bien... qui sont pas vraiment dans une structure cinématographique, comme par exemple l'arrivée tout à coup d'un prêtre qui parle de sa paroisse, d'un militaire dans la nature comme ça, dépendu, on sait pas pourquoi, enfin bon, je dirais il y a pas une réelle histoire, c'est l'histoire d'un rêve, peut-être un cauchemar même, j'en sais rien, et ça s'est assez éloigné quand même de ce qu'il avait fait au théâtre. Parce qu'il fallait en faire un film. Quoi.
Parce que vous allez voir, vous allez, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la grammaire du cinéma, il y a pratiquement toutes les possibilités. Et j'ai vu même, ça avait été publié, en fait, quelques passages du scénario, donc de sa main. Et il y a des travelling qui sont pas faits du tout n'importe comment. Il y a même utilise le zoom, ce qui m'a d'ailleurs assez étonné. Le champ contre champ, on voit qu'il y a quand même, pour vous donner une idée, on est en 73. Pour moi, c'est un film qui a ce côté aussi psychédélique que pouvaient avoir certains films expérimentaux de cette époque-là. C'est-à-dire, pour vous situer les choses, moi, je dirais que ça commence comme les premiers films de Garel, si vous voyez la cicatrice intérieure, le lit de la Vierge, le berceau de cristal. C'est un peu de... Vous allez reconnaître très très vite un peu cet univers-là. Ils ont en commun aussi l'idée que c'est... Enfin, de la passion christique, hein, que souvent Garel a utilisé. Il y a des choses qui ressemblent un peu à du Bresson aussi, vous allez voir sur un jeu des portes. Et puis ça se finit bizarrement comme un peu comme un film d'Antonioni, où tout d'un coup on voit un homme, une femme, un lit. Il y a beaucoup de figures allégoriques. Il y a une Pietà à un moment, on voit une mère et donc le fils. Il y a donc ce personnage principal qui est un magnifique, magnifique jeune homme qui aurait pu être effectivement là aussi, ou chez Garel, ou chez Bresson, d'ailleurs, ou chez Antonioni même, d'une certaine manière, et qui en fait vit une sorte de passion. On peut dire que les images christiques reviennent très, très souvent au début. D'ailleurs, le début est presque la fin, puisqu'en fait il est assassiné pratiquement dès les premières images, et ensuite le film se réenroule comme s'il fonctionnait à l'envers et revenait en fait à son point de départ. Et il me semble que c'est un film aussi sur, c'est dit, la mort de l'artiste, la passion de l'artiste, c'est-à-dire en fait l'artiste en tant que mission. On sait qu'à l'époque il est beaucoup influencé par Dostoïevski, il va s'en suivre dans ces années-là des voyages aussi en Russie. Il dit il est possédé, donc il adapte Crime et Châtiment. Et même dans Récit mort, on ne peut pas s'empêcher de penser à Récit de la maison des morts de Dostoïevski. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc ça, on sent que ça baigne, même par exemple les plans dans la forêt, on ne peut pas s'empêcher qu'il y a une atmosphère dostoïevskienne en fait là-dedans, et que cette espèce de jeune homme qui est à la fois diable et Christ est aussi un peu comme ces personnages qui iront jusqu'à Zuko d'ailleurs, comme un révélateur, c'est-à-dire qu'en fait il arrive et il révèle pas à la manière exactement comme dans Théorème où le personnage passe comme ça et révèle, mais quand même il y a à la fois une passion et une révélation des choses. Et d'ailleurs le gibet où on voit, où on dit voilà, on tue le poète, et etc., c'est une espèce de crucifixion en fait, puisqu'ils sont trois, donc il y a comme les deux larrons, et puis au milieu il y a donc l'espèce d'idée que et dans les lettres on le voit très très bien, le fait d'écrire, le fait d'être exclu forcément de la société et en fait mène jusqu'à une sorte de passion jusqu'à la fin, quoi. Il y a une sorte d'absolu. C'est un film qui fonctionne beaucoup sur le transcendantal. Enfin, on le voit, il y a la tour, il y a cette espèce de chute de la tour. Il y a énormément d'allégories. L'allégorie donc du prêtre, l'allégorie du guerrier, l'allégorie de la mort aussi qui est là en noir avec son couteau. Il y a tout un monde de la passion. Et c'est pas un hasard qu'il choisit effectivement des passions comme musique.
Non, non, ça c'est pas un hasard. Et l'autre chose, moi, qui me semble incroyable aujourd'hui quand même, c'est d'avoir... C'était pas le seul à faire des films. Il y en a qui ont fait des grands films à cette époque, évidemment. Mais je veux dire, là, il y avait seulement une caméra, point. Il y avait rien d'autre. Il y avait aucun matériel. D'ailleurs, ça se sent dans le film, hein, c'est un film pauvre, disons. Mais il voulait aller jusqu'au bout de... Il a pas éliminé des choses qu'il voulait faire parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Là, il y a des moments où c'est un peu plus difficile à voir, c'est saccadé. Par exemple, il y a une scène qui est absolument incroyable. Enfin, pour moi, c'est la chute d'un corps le long d'un mur. Ouais. C'est une chose qui est relativement facile à faire quand on a les moyens de le faire, mais là il y avait rien, donc c'était très difficile. Mais il a pas voulu céder sur aucune chose, ce qui fait que c'est vrai que le film paraît pauvre, quoi. Enfin, je veux dire, du point de vue technique, c'est sûr qu'il est pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi d'ailleurs, dès qu'il a été terminé et monté, il a laissé tomber, ça l'intéressait plus.
Parce que techniquement, il est pauvre, donc on a dit noir et blanc. Ouais.
Pas seulement noir et blanc, c'est aussi, comme il n'y avait pas d'argent, on n'a pas tourné avec une pellicule négative, mais avec une pellicule positive. C'est-à-dire que quand on développe, on a immédiatement le positif. Et normalement, il faudrait faire une copie. Mais là, il n'y a pas d'argent non plus pour faire une copie, donc tout le montage est fait sur le négatif qui a été développé en positif, ouais, original, donc. Et donc, le montage est dégueulasse, quoi, parce que, en plus, bon, ce film a un peu une histoire. Vous avez l'impression de voir un film de la guerre de 14, alors qu'il est quand même relativement récent. C'est simplement parce que, il a fallu recoller tous les morceaux qui étaient dispersés, puisqu'il avait été entreposé n'importe où. Et du coup, ça donne une étrangeté au film qui devrait pas être là, quoi. Alors il y a cette chose là puis l'autre chose quand même que je voudrais préciser, c'est que ce film a déjà été projeté quelques fois, mais ça c'est la première fois qu'on le projette de cette manière là c'est que la bande son, qui était une bande à part, donc une bande magnétique, avait été distendue par la chaleur et le son était complètement désynchronisé. Il y a deux raisons pour la désynchronisation du son. La première, c'est que tout le son a été fait en post-production, c'est-à-dire dans un studio. Donc, c'était pas des professionnels qui faisaient ça. Je parle des comédiens. Donc, c'est pas exact. Mais la deuxième vient du fait que la pellicule magnétique était distendue. Donc, il a fallu refaire un montage numérique. C'est pourquoi aujourd'hui, il sera mieux. Du coup, il y a aucun son autre que la voix et un peu de musique. Et puis, à un moment donné, un couteau cran d'arrêt.
Un petit bruitage, oui.
Mais il n'y a pas de bruitage du tout, puisque le film n'a pas été terminé.
Jusqu'où a été, en fait, ces indications sur le montage? Parce qu'on a l'impression que, quand même, le montage suit une logique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la logique, donc, comme on vient de dire, linéaire d'un film classique. Mais il y a quand même des champs contre champs. Il y a des gros plans qui viennent à certains moments. Il y a un expressionnisme, parce qu'il joue avec l'ombre et la lumière. Le noir et blanc sert beaucoup à cette espèce de côté expressionniste du film. Mais par contre, il y a des moments, pour enlever toute ambiguïté, il y a des moments où la pellicule est voilée. C'est un peu, ça me fait penser là aussi au film de Garrel, puisqu'il avait récupéré en fait des chutes de pellicule que les autres avaient laissées de leur film pour les tourner. Souvent, les pellicules étaient un peu voilées et il jouait du fait parce que ça donnait un aspect fantomatique en fait, encore plus, comme si les personnages ne tenaient pas sur l'écran et sur la pellicule. Donc là, par exemple, quand on voit des carrés blancs, c'est en fait juste pour passer du.
Ah non, ça c'était voulu.
Ça c'était voulu.
Il voulait faire par exemple des fondus, donc voilà. Soit des fondus qui descendent dans la lumière, soit qui remontent. Il les a jamais fait. Donc il y a des carrés blancs, il y a des moments de blanc où il devait y avoir de la musique.
Qui sont là voulus, qui sont vraiment.
Voilà, qui sont voulus, où il devait y avoir. Et non, on n'a rien ajouté. Et par contre, tous les plans, absolument tout, était prévu. Le montage était déjà prévu dans le scénario.
D'accord.
C'est-à-dire, il n'a rien modifié au montage.
Oui, parce qu'on voit très très bien. Et par exemple, il y a aussi des comment? Oui. Non, mais c'est bon. Donc, si vous voulez poser des questions, vous les poserez après. Alors.
Pardon, alors, de vous avoir dérangé.
Non, mais une dernière chose. Quand vous allez voir le film, vous allez vous rendre compte pourquoi il valait mieux de donner toutes ces précisions.